8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Nous parlons éducation comme chaque semaine et aujourd'hui la sélection à l'entrée des universités avec les logiciels d'orientation. En France, la plateforme de vœux Parcoursup a ouvert ce mois-ci. Une plateforme critiquée depuis 5 ans pour ses algorithmes opaques, sa prise en main difficile aussi. 3 jeunes sur 10 considèrent que la plateforme permet un accès équitable à l'enseignement, un accès inéquitable à l'enseignement supérieur, selon le quatrième baromètre de confiance dans l'avenir des 15-20 ans. Parcoursup génère un énorme stress, ça c'est sûr, hein, chez les élèves de terminale et leurs familles, qui savent qu'il s'agit moins de choisir que d'être choisi pour entrer dans telle ou telle formation. Ce système a inspiré des pays comme le Sénégal avec ses universités décentralisées et sa démographie étudiante en forte hausse. Alors les voisins, les voisines, si vous vous sentez concernés par ces logiciels de sélection dans votre pays, racontez-nous votre expérience. Vous pouvez nous téléphoner sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On en discute avec Johan Ferber. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en lycée à l'université. Vous publiez une attaque au lance-flamme. Le titre, c'est « Parlez-vous, le Parcoursup ?» point d'interrogation aux éditions du Seuil. Nous sommes également en ligne avec le professeur Ousmane Thiaré à Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur et donc à la tête du fameux logiciel Campus Sen qui a maintenant près de 10 ans d'existence au Sénégal. Et puis en dernière partie d'émission, un tout autre sujet, reportage de Philippe Le Caplain au Cambodge auprès de l'association Pour un sourire d'enfant qui tente de combler les lacunes du système éducatif cambodgien. Et on terminera comme chaque semaine par la chronique de Micheline Samé, conseillère parentale pour notre rubrique parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Je vous rappelle notre numéro de compte WhatsApp si vous souhaitez vous exprimer sur les logiciels d'affectation dans les universités de votre pays. 33 7 64 45 51
41. RFI.
8 milliards de voisins.
Bonjour RFI.
J'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble. Et nous devons marcher ensemble.
Johan Ferber, j'apporte une petite correction aux chiffres que j'ai donnés en ouverture. Hein. Il s'agit bien de seulement 3 jeunes sur 10 qui considèrent que la plateforme Parcoursup offre un accès équitable à l'enseignement supérieur. Il suffit de faire un petit calcul, ça veut dire que 7 sur 10 estiment que ça produit de l'injustice, hein, que tout le monde n'est pas égal dans cet accès à l'université à travers la plateforme Parcoursup. Donc votre livre ne dit pas le contraire, hein, puisque c'est une critique, donc comme je le disais, au lance-flamme sur cette fameuse plateforme. Votre livre commence avec ce qu'on pourrait appeler une anecdote. Racontez-nous, il s'agit d'une fausse lettre de motivation.
Oui, en fait, c'était l'année dernière, au mois de mars 2022, une jeune lycéenne de Pau, Lucelle Castegbou, pour ne pas la nommer, a fait une erreur dans la saisie de ses vœux. Et au lieu de solliciter une place de faire un vœu pour l'université de Pau, elle a fait en fait un vœu pour l'université de Bordeaux. Elle a candidaté dans une mauvaise filière. Et elle s'est dit, c'est peut-être l'opportunité de démasquer quelque chose qui effectivement est à l'œuvre, l'imposture et la supercherie de Parcoursup, parce qu'elle a posé comme postulat, en fait, à sa blague de potache, que les lettres de motivation n'étaient pas lues. Elle a donc copié-collé une recette qu'elle a prise sur marmiton.org.
Une recette de cuisine à la place de la lettre de motivation.
À la place de la lettre de motivation. Et donc, en toute logique, si on suit ce que les autorités académiques disent, cette lettre de motivation aurait dû être l'occasion, soit d'une réprimande, soit au contraire d'une lettre jetée au panier. Et au mois de juin, au moment de la première phase, que s'est-il passé? Eh bien, en dépit de cette lettre de motivation inspirée de marmiton.org, cette recette de cuisine a permis à la candidate d'obtenir la place qu'elle désirait. Alors, qu'est-ce que voulait démontrer cette jeune fille? Elle voulait démontrer que Parcoursup a un problème. Et moi, j'ajouterais que Parcoursup est un problème. Et en quoi cette anecdote, comme vous le rappelez très justement, a une fonction, je dirais, révélatrice? C'est qu'elle révèle deux choses. Elle révèle la place place paradigmatique, c'est-à-dire totalement fondamentale, centrale, qu'occupe Parcoursup dans la vie des jeunes, et aussi la manière dont finalement cette plateforme pose un certain nombre de problèmes par l'usage de l'informatique, par l'usage du logiciel, et aussi par la sollicitation et l'angoisse qu'elle suscite chez les jeunes. En effet, on dit toujours que les lettres de motivation sont lues, et pourtant il y a un problème fondamental auquel ne répond pas Parcoursup. Si ces lettres de motivation ne sont pas lues à l'université, c'est parce qu'en fait il manque de personnel, il manque de place, il manque finalement de création d'université. Et c'est quoi Parcoursup ? Ben, c'est un outil finalement...
Pourquoi les demander ces lettres de motivation s'il n'y a pas les moyens humains pour les lire ?
Parce que en fait ça installe ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'au contrat social qui normalement devrait régir l'éducation nationale, eh ben, l'éducation nationale exprime en ce moment un grave problème de démocratie, et ce problème de démocratie, qu'il s'agisse de la répression sur les personnels ou de l'intimidation envers les élèves, eh bien il passe par ce qu'on pourrait appeler un contrat sadique, c'est-à-dire solliciter une lettre de motivation pour ne pas la lire, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en fait on va demander à l'étudiant, futur étudiant, des gages d'engagement, ce que j'appelle dans le livre un pacte faustien, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un acte de soumission néo-féodale qui s'exprime.
C'est quand même pas le diable l'enseignement supérieur.
Ce n'est pas le diable, mais ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus méphistophélique à partir du moment où vous dites que vous avez le choix dans un certain nombre de formations et qu'en fait ce choix se révèle être une illusion. C'est finalement en fait un problème de... On parle beaucoup de problèmes de transparence et d'opacité à propos de Parcoursup. Je crois que le problème auquel s'affronte l'éducation nationale à travers Parcoursup, c'est le problème de la démocratie.
Les étudiants, ils ont très bien compris en fait qu'ils sont choisis, hein, plus qu'ils ne choisissent. Mais enfin, ils ont quand même la possibilité d'émettre énormément de vœux. Vous souhaitez finalement... Parcoursup est déjà très critiqué. Qu'est-ce que vous souhaitez dénoncer plus clairement et fondamentalement? Moi, que les critiques déjà émises.
Oui, les critiques déjà émises qui sont d'ailleurs, qui ont commencé dès 2017 au moment où le projet a été formé, qui se sont accentuées en 2018 et qui, en fait, ces critiques témoignent d'une absence de bilan. Parce que la réforme Parcoursup, elle est articulée, il faut le dire à nos auditeurs, à une réforme du baccalauréat qui est fondée essentiellement sur le contrôle continu. Et ces deux réformes, en fait, Parcoursup et le baccalauréat, auraient dû susciter, comme le ministre à l'époque, Blanquer, s'y était engagé, des rapports avec une commission. Or, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune commission. Moi, en produisant ce livre, qui a un caractère pamphlétaire, c'est de réouvrir le débat et de poser la question, en fait, très simple, c'est il y a eu en fait un problème avec Parcoursup, il y a un problème avec Parcoursup, c'est que Parcoursup masque technologiquement les carences de l'État, c'est-à-dire qu'il y a eu au début des années 2000 un baby-boom, une très forte poussée démographique, et que cette très forte poussée démographique, il faut l'articuler avec le souhait de Jean-Pierre Chevènement en 1985 de l'accession à 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, et qu'en toute logique, cette montée, c'est mécanique.
Il y a embouteillage à l'arrivée à l'université.
Il y a embouteillage parce que un même problème s'était posé lors de ce qu'on appelle la première explosion scolaire en 1990. On se souvient, puisque moi je ne suis pas de la première heure, hein, donc voilà, on se souvient qu'en 1990, il y avait un certain nombre de manifestations de jeunes autour de ce qu'on appelait à l'époque Feu le Minitel, 36-14 Code Ravel, et que Lionel Jospin avait fait un plan qui s'appelait Plan Université 2000, avec pour précisément accompagner cette poussée démographique qui en fait était plutôt, je dirais, une montée de la démocratisation du bac, et bien il l'avait accompagné de la création de 8 universités. Ce livre, il veut poser une question très simple au ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Où sont les universités ? Où sont-elles ?
Où sont les places supérieures, les places dans l'enseignement supérieur depuis 20 ans que la démographie étudiante continue d'augmenter ?
Oui.
D'accord. Donc vous reprochez un manque d'investissement chronique, fondamental dans l'enseignement supérieur par tête d'étudiant en France. Néanmoins, vous reprochez également la sélection sur les notes, sur les résultats scolaires, puisque c'est vrai que le logiciel Parcoursup se base... On l'a compris, pas sur les lettres de motivation, mais davantage sur les résultats scolaires pendant les dernières années du lycée. Et faut-il envoyer des élèves qui ont un très mauvais niveau en maths en études de médecine ?
Je crois que le problème qui est posé en fait par Parcoursup, c'est le problème en fait de la déconsidération du baccalauréat. En fait, le stress dont vous parliez très justement dans votre introduction est un stress qui est généré par un problème fondamental, c'est-à-dire que auparavant, on disait tu vas travailler pour ton bac, tu es sérieux, tu es rigoureux, tu vas avoir ton bac et ce bac te donne de droit une place à l'université. Cette fois, la donne a changé. On sait que le contrôle continu a vidé le bac de son sens, que le stress est renforcé quand même par le contrôle continu, puisque maintenant, il n'y a pas une semaine d'épreuve terminale en juin à la fin de la terminale, mais tout au long, en fait, de la scolarité au lycée. Et quel est le problème? C'est maintenant, on ne peut pas dire la même chose du bac qu'on le disait pour Parcoursup. Tu travailles, tu es sérieux, tu es rigoureux, tu es excellent, mais en fait, ce travail ne peut très bien n'être pas récompensé par des efforts et à l'issue de toutes les sessions Parcoursup, se retrouver sans rien du tout.
Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Alors, un élève, un lycéen qui a de mauvaises notes en matière scientifique, que ce soit au contrôle continu ou que ce soit au bac d'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas totalement hypocrite de lui permettre d'entrer à l'université en fac de médecine, sachant qu'il sera de toute façon recalé à la fin de l'année au concours?
Ah oui, c'était
votre question. D'accord, c'est un cas particulier, je suis d'accord.
Mais ça pose la question de
l'échec en licence, notamment.
Bien sûr, alors c'est exactement, vous m'ôtez les mots de la bouche, c'est le problème de l'échec en licence. L'échec en licence n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de fatalité à l'échec en licence. Effectivement, vous avez parfaitement raison de le souligner, il peut y avoir un élève qui est désireux de faire des études pour lesquelles, malheureusement, il ne serait pas fait. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Peut-être mettre en place deux choses. Et on revient à la question de l'investissement. Peut-être avoir des passerelles qui s'articulent beaucoup plus. La question de la réorientation est une question qui est toujours mise sur la table, jamais véritablement financée. Et la deuxième chose, c'est que peut-être cet élève a une appétence pour la médecine, mais que sa maturation intellectuelle n'est pas assez évoluée au moment où il veut le faire. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait un accompagnement avec plus d'enseignants et des groupes d'enseignement plus restreints. Quand on le voit à l'université de Créteil, eh bien, j'en donne l'exemple dans le livre, l'université de Créteil, pour l'essentiel, la première année de médecine se passe en distanciel. Et donc, ça veut dire quoi? Ça rejoint exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire
qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir physiquement dans l'amphithéâtre.
Voilà, exactement. Donc là, effectivement, l'enseignement, c'est un accompagnement humain. On ne cesse depuis toutes les autorités académiques qui entourent avec beaucoup de discours managériaux Parcoursup, ne cesse de dire que l'humain est au centre. Mais cet humain qui est au centre, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que on nous parle d'accompagnement, mais le meilleur accompagnement, c'est d'avoir des groupes restreints avec plus d'enseignants. Et là, effectivement, on pourra peut-être commencer à discuter de la pertinence des choix à partir du moment où les investissements seront suffisants.
Alors, vous dénoncez la sélection pour pallier le manque d'investissement chronique dans l'enseignement supérieur. Et vous dites aussi que finalement, ce manque d'investissement chronique dans l'enseignement supérieur public, à qui profite-t-il? Au secteur privé, notamment à des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup, puisque les familles, finalement, tentent de se saigner pour inscrire parallèlement leurs enfants dans des écoles privées qui ne passent pas par Parcoursup et donc pour avoir une inscription validée, avoir cette sortie de secours.
Oui, parce que, en fait, effectivement, vous avez évoqué le stress, et on l'a encore évoqué à l'instant. Ce stress, en fait, il crée ce qu'on pourrait appeler un marché de l'angoisse. Et ce marché de l'angoisse, en fait, le stress, on peut le combattre dans nos sociétés libérales par une chose, avec l'argent. L'argent, c'est quand même le meilleur médicament à la détresse sociale. Et je crois que le gouvernement macroniste n'assume pas précisément cette incitation passive au privé. Et il y a quatre secteurs privés qui se partagent, une sorte de thésaurisation de la détresse lycéenne et de la détresse parentale. Savoir, bien évidemment, les écoles privées dont vous parliez à l'instant. On a aussi le coaching en orientation. On a également, effectivement, le prêt bancaire étudiant qui commence un peu à s'imposer. On voit une offensive, notamment, de la Caisse d'épargne de Bordeaux qui fait des dossiers Parcoursup pour les bons conseils Parcoursup pour solliciter des prêts bancaires à la fois pour le coaching et pour les écoles privées. Et puis aussi, mais peut-être on aura l'occasion...
Contrairement à certains pays qui proposent des prêts bancaires étatiques. Il faut dire que, bon, par exemple, le Royaume-Uni, mais enfin, dire que les tarifs sont tellement excessifs que... ceci dit, cette plateforme, vous parlez carrément de maltraitance numérisée à propos de la plateforme Parcoursup. C'est quand même une plateforme qui s'adresse à une génération qui est née avec le numérique. On ne parle pas d'une plateforme qui s'adresse à des retraités qui ne parviennent pas à accéder à leurs droits fondamentaux, à leurs droits sociaux, du fait de la dématérialisation quand même. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu?
Non, je pense que c'est la plateforme qui exagère pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle renvoie à ces jeunes qui, effectivement, vous avez très bien rappelé qu'ils sont nés, on peut dire c'est une génération numérique, mais elle les renvoie finalement à un électronisme en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'un côté le discours de l'éducation nationale qui se dit de se méfier des réseaux sociaux sociaux, de l'accoutumance à l'écran, et ensuite de construire une plateforme qui génère un stress quotidien avec une série de notifications. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. On peut pas dire deux choses en même temps, on peut pas soutenir deux choses. Et je crois qu'effectivement, Parcoursup génère une société qui est rivée aux écrans, dont elle est le produit, mais absolument pas la solution et absolument pas la porte de sortie.
Mais à force de raconter partout que Parcoursup, c'est l'horreur, que c'est vraiment la roulette russe, hein, et que voilà, on se tire une balle et qu'on ne sait jamais s'il y a vraiment une balle dans le pistolet ou pas. Est-ce que ça ne profite pas au secteur privé qui arrive avec des arguments marketing de dire venez vous inscrire chez vous, oubliez Parcoursup et son illogisme, son injustice, et chez nous, vous serez encadré, certes, ça sera payant, mais vous aurez un job à la sortie et vous allez sortir de tous ces doutes, de toutes ces incertitudes, notamment aussi l'échec massif en licence.
Oui, mais je crois qu'on ne peut pas désigner comme coupable celui qui dénonce des méfaits. Je pense qu'il ne faut pas retourner la culpabilité, qu'on vit dans un système précisément d'incitation passive au privé et dans une perversion qui retourne toujours les responsabilités contre ceux qui dénonçaient le même.
21% des étudiants du supérieur hein, sont désormais dans le secteur
privé. Oui, alors que moi, par exemple, quand j'ai fait mes études il y a bien longtemps, le secteur privé ou les universités privées étaient dans une déconsidération intellectuelle qui aujourd'hui n'a plus cours. Donc on voit qu'il y a un changement de paradigme, et ce changement de paradigme, il repose essentiellement sur cette incitation au privé, parce que effectivement, les discours anxiogènes sur Parcoursup se multiplient, parce que Parcoursup est une plateforme anxiogène et que ce stress devient un acteur social à part entière dans nos sociétés.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de bloqué sur l'enseignement supérieur en France ? Dans tous les débats depuis des dizaines d'années sur l'université, il y a toujours eu deux tabous. La sélection, on ne pouvait pas en parler, les syndicats étudiants disaient non, sinon on met tout le monde dans la rue. Et alors là, c'était quand même, les jeunes dans la rue, on ne sait pas comment les faire rentrer chez eux et c'est très, très dangereux politiquement. Et l'augmentation des frais d'inscription, qui sont parmi les plus bas des pays développés. Je rappelle que c'est 180 euros une année en licence. Alors, est-ce que finalement, cet algorithme de Parcoursup, c'est pas le pansement sur une impossibilité de débat démocratique sur ces deux grandes questions ?
Je crois que le vrai débat qui se pose, vous avez raison de souligner que les deux mots tabous, c'est l'argent et la sélection. La sélection, on sait que c'est tabou en France depuis 1986 avec l'assassinat de Malik Oussekine.
Et la loi de Vaquet,
puisque c'était les manifestations de novembre 1986. Le deuxième tabou, c'est l'argent et l'investissement dans un système de l'éducation nationale qui se targue de la gratuité et de son désintérêt pour l'argent. Mais je pense que cette question de l'argent, elle est effectivement, vous avez absolument raison, elle est centrale, et que cette question de l'argent, elle doit être posée non pas à ceux qui veulent faire des études, mais combien l'État veut investir. C'est plutôt une question de responsabilité étatique, puisque là, on est finalement dans un système à la Gerhard Schröder ou à la Tony Blair. Hein, on n'est pas. J'entends beaucoup parler d'un système à la Thatcher. Je pense que là, on est dans une sorte de socialisme ringard à la Tony Blair, où finalement on a une sorte de libéralisme bontain avec des accents de gauche. Bon, tout ça, ça a 20 ans de retard. On sait maintenant la catastrophe que ça a pu engendrer en Allemagne et en Angleterre. Et je crois que il est temps de se réveiller. Puis surtout cette année, moi j'observe un basculement de l'opinion autour de Parcoursup, c'est-à-dire que on a le discours étatique autour de la valorisation de Parcoursup, et maintenant après 5 ans, il y a l'expérience désastreuse des parents et des élèves, et cette expérience circule pour venir déconsidérer ce qui relève un petit peu de la part du gouvernement d'une fable gentillette et nocive.
Ouais, alors le Royaume-Uni, effectivement, très fort endettement des étudiants, mais tout de même d'excellentes universités malgré tout. Nous allons donner la parole au professeur Ousmane Thiaré. Rebonjour Ousmane Thiaré.
Bonjour.
Vous êtes à la tête, vous, au Sénégal, de Campus Seine, hein, depuis 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà comment fonctionne cette plateforme pour les bacheliers ? Est-ce que c'est l'exact miroir de Parcoursup ?
Bon, il faut dire qu'au Sénégal, l'État du Sénégal a mis en place Campus Seine depuis 2013-2014, parce que nous avions commencé à constater une augmentation exponentielle du nombre d'élèves dans les lycées. Et ce qui fait que aussi les demandes auprès des structures d'enseignement supérieur public aussi augmentent de façon exponentielle. Et il fallait imaginer mettre en place une plateforme qui puisse permettre en tout cas d'orienter l'ensemble des bacheliers dans les universités publiques et les institutions supérieures d'enseignement public. Alors, plateforme Campus Seine fonctionne comment en fait ? Il faut dire qu'en fait, c'est les universités qui déterminent dès le début le nombre de places à donner au ministère comme quota. Ensuite, on met en place une commission nationale d'orientation des bacheliers qui travaille de concert avec tous les directeurs qui sont chargés de la pédagogie au niveau des universités. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, le ministère demande aux universités d'envoyer l'ensemble des filières et surtout encore, ce qui est important, c'est que chaque filière est accompagnée des critères d'admission. Et c'est ces critères-là qui sont mis en place par Campusen.
Les critères, ce sont essentiellement les notes.
Voilà, c'est essentiellement les notes qui sont basées, par exemple, quand vous prenez l'algorithme qui marche sur Campusen, il y a à la fois les notes de seconde, première, terminale, mais surtout aussi les notes du baccalauréat. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que ces critères sont envoyés par les universités d'accueil. Ça, c'est extrêmement important et c'est un processus inclusif de bout en bout. Il faut dire que, moi, je pense qu'il faut, saluer en tout cas l'arrivée de Campusen au Sénégal parce que c'est un outil de sélection qui permet d'avoir une égalité de chance entre l'ensemble des bacheliers et surtout, les meilleures places sont prises par les meilleurs bacheliers, justement.
Est-ce qu'on prend en compte le lieu d'habitation ou est-ce qu'un étudiant de la banlieue de Dakar peut se retrouver affecté dans une université en Casamance, à Ziguinchor?
Tout à fait, ça c'est tout à fait possible, mais ça fait partie peut-être des améliorations qu'on pourrait apporter plus tard. Mais ça c'est possible aujourd'hui, vous pouvez habiter à Dakar, être orienté à Ziguinchor, parce que ça dépend du nombre de filières que vous...
Ça revient à un classement des universités d'une certaine manière.
Ouais, je dirais pas qu'il y a un classement des universités, mais en tout cas les étudiants ils compétissent, en tout cas sur des filières, parce que si vous prenez un candidat qui vient d'avoir le bac et qui s'inscrit sur la plateforme Campusen, il peut faire 18 choix dans les universités publiques, et il faut faire aussi 15 choix dans ce qu'on appelle les instituts supérieurs d'enseignement public, où l'étudiant fait que 2 ans. Donc vraiment il y a une compétition au niveau des filières, au niveau du classement en fonction des notes obtenues par les élèves.
Vous restez en ligne avec nous, professeur Ousmane Thiaré. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler, nous envoyer des messages si vous vous sentez concerné par ces logiciels d'affectation, d'orientation dans les universités une fois le bac obtenu. Notre compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après Captain Planet et David Walters.
Souffert, c'est du vent à aller. Frappez ça ou gardez. Quittez souffert, en l'autre soleil levé. Racine-nous tes palais. Café, patch et l'année.
Yeah. milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI. On parle éducation comme chaque semaine et très spécifiquement de ces fameux logiciels d'affectation, d'orientation dans les universités une fois le bac obtenu. Il s'agit de Parcoursup en France, Campus Seine au Sénégal, il y en a d'autres. Ces plateformes permettent aux lycéens donc de formuler des vœux. Reste à savoir s'ils parviennent à s'inscrire réellement à la fois dans l'université de leur choix et dans la filière de leur choix. On en discute alors bien sûr avec notre invité qui est à Paris, Johan Ferber. Vous publiez un pamphlet très critique. Parlez-vous le Parcoursup, point d'interrogation. Et puis nous sommes également en ligne avec le responsable de Campus Seine, le professeur Ousmane Thiaré. En ligne, en direct de Dakar. Professeur Ousmane Thiaré, je vous propose d'écouter le témoignage de cet auditeur qui se trouve à Bakel, dans le nord du Sénégal, et qui a étudié à Kaolack. Écoutez-le.
Bonjour, c'est Idisso, depuis Bakel, Sénégal, étudiant en licence de développement local au niveau de l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahim Niass de Kaolack. Nous, ici au Sénégal, on a droit jusqu'à 18 soir. On m'a orienté au niveau de mon 17e soir, là où je ne m'attendais pas, là où je ne pensais pas que j'allais être orienté. Mais bon, j'ai dit, vu que c'est mon dernier choix, bon, je n'ai plus d'autres options. En plus, je n'ai pas de choix. Vraiment, je dois valider cette choix-là. En plus, c'est ce que j'ai fait. C'est une chose que je ne connaissais pas. Mais une fois à l'université, je sais que vraiment, c'est une filière qui est extraordinaire. En plus, là où tu te retrouves, vu que je suis un étudiant en plus qui vient d'un village, j'ai dit vraiment, c'est l'opportunité pour s'engager quand même dans le développement de son territoire. Vraiment. Merci beaucoup.
Ousmane Thiaré, voilà le témoignage d'un auditeur. On va dire, ce n'est pas les râleurs hein, de la France. On a cette première génération de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur, dont les parents, bien souvent, n'ont même pas pu terminer le cycle secondaire, voire même, parfois même, le cycle primaire. Et évidemment, quand on a une place dans une université, même dans cette décentralisation des universités, les jeunes sont contents. Ousmane Thiaré, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous?
Oui, c'est un beau témoignage. Je pense
un beau témoignage qu'il vient de faire.
Ah, on a un petit problème. On va essayer de vous recontacter. On a un petit problème de ligne numérique. Pour cet auditeur, il dit qu'il a eu donc son avant-dernier choix sur 18 choix. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même contexte que le contexte français.
Oui, on n'est pas dans le même contexte pour la simple et bonne raison qu'effectivement, l'offre et la demande n'est pas la même. La culture scolaire n'est pas la même. Le développement ne sont pas les mêmes. Et ce témoignage est effectivement très beau, comme vous le soulignez, puisque là, moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'effectivement, il a atterri, on peut dire, par hasard dans ce qui ne l'intéressait pas. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est effectivement cette accession au secondaire. Donc, je crois
au supérieur.
Au supérieur, pardon. Donc, effectivement, ces situations ne sont, si elles obéissent au même algorithme, elles ne sont pas comparables en termes, je dirais, d'histoire de la scolarité. En France, c'est vrai que on a tous ces vœux à faire, tous ces choix à faire, et que parfois on atterrit bien malgré soi dans une filière qui n'était pas désirée. Bon, ça rejoint le problème qu'on se posait tout à l'heure avant la pause musicale, celui en fait de la réorientation, c'est-à-dire finalement de pouvoir faire des études que l'on souhaite. Voilà.
Alors ceci dit, le logiciel Parcoursup, il a été vendu aussi politiquement comme un logiciel plus équitable socialement, puisqu'il y a des places réservées pour à peu près 25% de boursiers dans les universités. Et le logiciel, quand l'algorithme mouline, évidemment d'abord avec les résultats scolaires au lycée, mais il mouline aussi avec les conditions sociales des lycéens. Oui. Il faut le rappeler quand même.
Ah oui, moi je trouve que effectivement cette question sociale que met au centre Parcoursup, c'est une très bonne nouvelle. Je crois que cette très bonne nouvelle s'accompagne comme toujours dans le macronisme d'une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que ce quota de boursiers devient finalement un instrument argumentatif pour empêcher toute critique de gauche. Qui ne se féliciterait pas que la part de boursiers qui est passée de 20% à 25% augmente? Personne.
Ousmane Thiaré, au Sénégal, pour le logiciel Campus Seine. La question de fond aussi, c'est est-ce que la création de places dans l'enseignement supérieur, logiciel ou pas, suit l'augmentation du nombre de bacheliers? Je rappelle que il me semble que le bac 2022, c'était à peu près 51% de réussite au bac. Près de 160 000 bacheliers, si je ne me trompe pas, de mémoire. Ousmane Thiaré. Bon, on a eu à nouveau un problème de connexion. On va peut-être essayer de joindre Ousmane Tiaré par téléphone très rapidement. Les plateformes d'affectation, Yoann Ferber, se développent. Hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est, se développent un petit peu partout. Est-ce qu'à terme, vous pensez qu'elles seront toutes vouées à produire des frustrations, des sentiments d'injustice? Ou à partir du moment où on est dans un pays où l'augmentation des places dans le supérieur suit la démographie étudiante, la plateforme n'est pas mauvaise par elle-même?
Je pense qu'effectivement, vous avez absolument raison. La plateforme n'est pas mauvaise par elle-même parce que qu'est-ce que Parcoursup à la base? C'est un algorithme de mariage, c'est-à-dire faire correspondre un vœu à la formation désirée. Et en soi, elle n'est pas diabolique, comme vous le disiez, vous le rappeliez tout à l'heure. C'est juste que cet algorithme de mariage, eh bien, c'est un algorithme de sélection. C'est un peu comme finalement considérer le candidat du bac comme un candidat de télé-réalité. Et puis finalement, il a effectivement plein de promises ou de promis et il ne peut finalement pas être choisi ni par l'un ni par l'autre. C'est à partir du moment où l'offre, il y a une disproportion entre l'offre et la demande que là, il y a une frustration. Et moi, je ne parlerai pas de frustration, je parlerai plutôt d'injustice sociale. Et Parcoursup est un... Parcoursup, c'est une mauvaise réponse à une question qu'on ne veut pas se poser, c'est-à-dire celle de l'investissement dans l'enseignement supérieur.
Néanmoins, tout le monde a une place à l'université à la fin des affectations.
Alors c'est à nuancer, c'est à nuancer, puisque tout le monde n'a pas une place, puisqu'il en reste quand même près d'une... pour le dire assez simplement, il en reste à peu près 30 000 qui n'ont pas de place et qui doivent passer dans des commissions au mois de septembre, ce qu'on appelle les recalés de Parcoursup. Et puis, la deuxième chose, c'est savoir...
Par se régler quand même pour une bonne partie d'entre eux.
Oui, mais comment ça se règle? Est-ce que les gens obtiennent ce qu'ils veulent? Et au bout de combien de temps l'ont-ils obtenu? Au bout de combien de phases? Je crois qu'il faut se méfier. Il faut se méfier des chiffres parce que les chiffres sont toujours là pour masquer la dimension humaine. Et on nous parle tout le temps de l'humain au centre de Parcoursup, mais on a véritablement le sentiment d'une antiphrase, du contraire de ce qui doit être dit, parce que derrière les chiffres, il y a des réalités humaines, souvent cruelles. Des jeunes qui passent le bac et qui, lors de la première phase de vœux, n'ont strictement rien du tout. Ils doivent présenter lors du grand oral... leur projet d'orientation qui est invalidé par la plateforme. C'est quand même des situations psychologiques très très difficiles, surtout sur des adolescents. Alors on n'arrête pas de nous parler de la crise psychologique des adolescents au moment du corona, mais enfin si Parcoursup devient un facteur aggravant de cette crise psychologique, franchement on se demande à quoi ça sert. Hein.
Voilà pour le contexte de Parcoursup. Je rajouterais, puisqu'on n'arrive plus à joindre le professeur Ousmane Tiaré qui gère la fameuse plateforme sénégalaise Campus scène qu'au Sénégal, même si la situation a l'air nettement moins tendue, il y a aussi des bacheliers qui ne trouvent pas de place comme affectation grâce à la plateforme et qui parfois doivent attendre un an, leur prochain tour pour avoir une place, ou alors qu'ils se retrouvent affectés à l'université virtuelle du Sénégal, qui n'offre pas évidemment forcément les mêmes chances de réussite parce que c'est pas simple d'étudier à distance. On donne la parole à un auditeur qui est en Guinée-Conakry. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Juste en quelques mots, vous avez des frères qui ne parviennent pas à s'inscrire sur la plateforme de la Guinée-Conakry pour avoir une place à l'université?
Évidemment, vous savez, c'est pas facile dans les régions. Il y a un problème d'électricité. Il y a pas beaucoup n'ont pas accès au smartphone grâce au moins aux revenus très bas du Guinéen. Et dans beaucoup de régions reculées, il y a des sérieux problèmes. Mais néanmoins, il y a une avancée sérieuse. Et au niveau de l'enseignement technique, Parcours Pro a été élaboré par le ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel, M. Bakar Bari. Et Dr Diaka, au niveau de l'enseignement supérieur aussi, en train d'évoluer dans cette dynamique. Il y a assez d'amélioration quand même. Ça évolue, ça avance, ça évolue, ça évolue très bien.
Malgré le manque d'accès à l'électricité, hein, qui est quand même un postulat de base pour pouvoir avoir accès à ces fameuses plateformes d'affectation. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci à vous, Yoann Ferber. Vous publiez Parlez-vous, le Parcoursup, et c'est édité aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Dans quelques instants, reportage au Cambodge auprès d'une association, alors sur un tout autre sujet, qui scolarise des enfants exclus du système scolaire. Ça sera juste après une petite pause.
8 milliards de voisins, la planète se parle.
8 milliards de voisines et de voisins.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Direction le Cambodge maintenant. C'est un pays qui a dû entièrement reconstruire son système scolaire après le génocide Khmer il y a près de 40 ans. Et aujourd'hui, les taux nets de scolarisation dans l'enseignement primaire atteignent près de 93%. Ça chute dans le secondaire, 43%. Et puis au fil des années, 28% pour le lycée selon les chiffres de la Banque mondiale. Malgré la quasi-scolarisation universelle en primaire, des évaluations récentes montrent que seulement 32% des garçons de troisième année de primaire maîtrisent l'alphabétisation en Khmer, contre 48% pour les filles, ce qui est déjà nettement mieux. Et pendant ce temps, seulement 8% des élèves de 15 ans ont atteint le niveau minimum de compétences en lecture et 10% atteignent le niveau minimum de compétences en mathématiques. Donc voilà, les chiffres, grosso modo, sont plutôt positif, mais dans la réalité, les compétences laissent à désirer. Autre trou dans la raquette du système éducatif cambodgien, les enfants totalement exclus de l'école et donc laissés aux bons soins des ONG. C'est le cas de l'association française Pour un sourire d'enfant, créée en 1996. C'est une école de rattrapage scolaire qui va jusqu'au lycée, avec notamment des centres de formation professionnelle. 6500 enfants sont ainsi accompagnés tous les ans. Et c'est un reportage de Philippe Bleu Caplin.
Sentsok 1, dans l'un des 24 bidonvilles de Phnom Penh. Pana, l'assistante sociale, discute avec Tida, la grand-mère d'un garçon de 9 ans et d'une petite fille de 6 ans. Pour un sourire d'enfant, s'occupe de ses orphelins depuis 3 ans. Et il est notamment question des 20 kilos de riz que l'ONG donne à cette dame pour qu'elle permette aux enfants d'aller à l'école. Retour à PSE dont le campus a été édifié là où il y a quelques années se trouvait une immense décharge publique. Lui y était chiffonnier quand il était petit. Désormais, il coordonne l'intervention des travailleurs sociaux. Il s'appelle Samedi, comme le jour où il est né.
À cette époque-là, moi, mes frères et mes sœurs, nous, on travaille tous ensemble sur la décharge. Le jour et quand même la nuit, il y a un couple de Français, il y a Christian Despaldia et Marie-Franc. Ils nous voient. Ils nous posaient des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Et nous, il n'y a rien à manger. Donc, tout le matin, il y a un prof qui vient, qui est arrivé avec le riz et le repas, assis sur les déchets, et après on a mangé. À cette époque-là, il y a une charrette avec la moto qui nous amène vers l'école. J'ai obtenu le bac ici, et après, j'ai eu une bourse à l'université de la lettre française. Pour être un professeur, pour convaincre les familles de laisser les enfants aller à l'école, nous on donne le riz 3,5 kilos par semaine pour un enfant.
C'est donc une sorte de troc qui permet de sortir les enfants de la rue, de la décharge ou des chantiers où les familles les envoient travailler pour gagner quelques malheureux riels. Égare aux parents qui ne respectent pas les termes de l'accord. Marie-France Despalières, que des milliers d'enfants sortis de la misère, surnomment mamie.
Les parents, ils étaient contents d'un côté qu'on leur propose de prendre leurs enfants à l'école. D'un autre côté, ils nous disaient « Oui, mais si vous m'en prenez deux, moi je ne peux pas nourrir les autres. » On leur enlève des enfants qui pourraient travailler et participer à l'effort de la famille. Et c'est comme ça qu'on a démarré la compensation. La compensation en riz pour permettre à ces enfants de venir à l'école. On coupe le riz à chaque absence. Et du coup, les parents sont un petit peu plus motivés.
PSE livre ainsi 7 tonnes de riz par semaine aux 2800 familles qui laissent leurs enfants aller à l'école. Ils sont 6500 tous les ans. Mais il n'y a pas de riz contre la permission pour l'État d'aller en cours, car lui a été abandonné. Il avait 6 ans quand il a trouvé refuge à PSE. 8 ans après, il va passer son brevet en fin d'année.
L'école est gratuite, je ne paye pas les professeurs. Et moi, j'habite à PSE, je suis un pensionnaire. Je suis content, on partage un petit pour manger. Et moi, je suis habite ici quand je suis petit aussi. PSE, c'est ma maison.
L'État veut ensuite suivre une des 5 filières professionnelles de PSE. Non pas la mécanique, l'hôtellerie, la gestion ou le bâtiment, mais technicien de cinéma. Nicolas Sacré est le directeur de cette filière.
Christian Despalières, papy, comme on l'appelle affectueusement à PSE, était fan de cinéma. Il mangeait des films à tous les repas, si j'ose dire. Il n'y avait pas d'école de cinéma au Cambodge à cette époque-là. Et il a essayé avec les autorités locales d'en créer une. Ça n'a pas marché. Il a dit, si c'est comme ça, je la crée dans mon assaut, avec très peu de moyens, avec l'aide de réalisateurs confirmés comme Patrice Lecomte. Il a petit à petit développé un curriculum, formé des professeurs et accueilli de plus en plus d'élèves. Donc maintenant, depuis 10 ans, on a 89 élèves qui ont été diplômés de l'école de cinéma.
Quand il avait 6 ans, Van Tha a lui été abandonné par son père, un soldat vietnamien venu libérer le pays du joug des Khmers rouges. Il ramassait des canettes au milieu des immondices. Il est aujourd'hui médecin.
C'est grâce à PSE, je peux sortir de la décharge et d'être un neurochirurgien. Tout d'abord, j'ai fini mon baccalauréat et puis je fais une formation de secrétariat. Mais j'ai parlé avec papy et mamie, je ne veux pas être un secrétaire. Je veux aller à la fac de médecine. Maintenant, je travaille dans un hôpital humanitaire qui s'appelle Konthebopha. C'est un hôpital gratuit pour les enfants. C'est juste un retour des choses. Je rends ce qu'on m'a donné. Ça me fait plaisir. Aider les autres, ça me fait sourire.
Autre destinée, celle de Keos Remain, qui montre son bras balafré par des éclats de la mine qui a tué son père, aux côtés duquel elle travaillait dans une rizière. Sa mère se remarie avec un homme alcoolique et violent qui l'envoie collecter de la ferraille, vendre du maïs à la sauvette et laver des voitures. Elle se présente à PSE pour obtenir un travail, mais l'association va voir ses parents pour les convaincre de la laisser apprendre.
Maman, avant, elle est désolée avec moi parce que moi, je n'arrêtais pas d'apprendre. Mais maintenant, quand je travaille et j'ai de l'argent pour aider quand elle est malade, elle est très, très heureuse avec nous.
Keos Remain est aujourd'hui secrétaire dans une clinique. Mamie la recroise parfois. Ils sont plusieurs milliers à avoir été aidés par l'association fondée par Marie-France Despaillères, qui a maintenant 80 ans.
Quand je sors d'ici, effectivement, j'en vois partout et on tombe dans les bras.
Comme souvent, en cette fin d'après-midi, l'orage gronde et inonde tout. La récréation se fait donc dans les salles de classe.
8 milliards de voisins
et de voisines.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI. Comme chaque semaine, nous parlons éducation. Après ce reportage sur les exclus de l'école au Cambodge et les solutions proposées par l'ONG pour un sourire d'enfant, eh bien, nous donnons la parole à la chronique de Micheline Samé, conseillère parentale qui s'exprime chaque semaine avec des conseils pour les parents, les enfants d'ici et d'ailleurs. Et on la retrouve aussi disponible en podcast.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Nous retrouvons la conseillère parentale à Douala, au Cameroun, Micheline Samé. Bonjour Micheline.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Aujourd'hui, on parle des enfants qui refusent de faire des tâches ménagères à la maison. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient davantage associer les enfants aux tâches ménagères. Évidemment, on ne parle pas de l'esclavage moderne, mais c'est vrai aussi que lorsqu'un enfant s'oppose à toute forme d'aide à la maison, on peut se demander finalement quel est le bon dosage de tâches ménagères en fonction des âges, Micheline.
Effectivement, Emmanuel, parce que c'est vrai que c'est un problème dans les familles et dans la mienne aussi, hein, pour tout vous dire. Certains le font de bon cœur, ils voient même un jeu, mais pour d'autres, vraiment, c'est une sorte d'esclavagisme moderne. Et l'une des raisons, c'est que ça peut être le manque d'habitude. Les parents trouvent que les enfants sont petits et ce sont les parents ou d'autres personnes qui le font. Et l'enfant grandit en s'habituant que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Du coup, lorsqu'il est sollicité, il n'y va pas de bon cœur. Il y a pour certains autres, c'est la concurrence avec ses frères. Ça, c'est ce qui se passe chez moi. Mes enfants ont tendance chacun à repousser le travail chez l'autre ou alors à repousser le moment de le faire parce qu'ils pensent qu'ils travaillent trop par rapport à ses frères. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de familles. Il y a certains autres qui pensent que faire les tâches ménagères, ça les infantilise. Surtout pour les adolescents qui se prennent déjà pour des petits hommes ou de petites femmes. Ils ne se voient pas en train de faire le ménage, la vaisselle, la lessive. Ils pensent, se demandent qu'est-ce que ça va se faire quand, lorsque ses amis vont le voir. Ce n'est pas facile. Il y en a aussi qui pensent qu'il y a trop de travail, il ne pourra pas faire tout ça. Et il y a aussi les parents, parce que lorsque les parents ne sont jamais satisfaits, ils ont toujours à redire, à chaque fois que l'enfant fait une tâche, il a l'impression qu'il ne va jamais y arriver et finalement, il se décourage.
Bien sûr, il ne s'agit pas de surcharger les enfants, puisque d'abord, ils doivent réussir à l'école. Mais que faut-il faire pour inciter davantage les enfants à être plus aidants à la maison? Et surtout, comment ne pas non plus surcharger les filles par rapport aux garçons, Micheline?
Oui, Emmanuel, il faut comprendre que l'idée de base, c'est la formation. C'est pour qu'ils sachent le faire, pour qu'ils apprennent à rendre service. Donc, effectivement, il y a un équilibre qu'il faut faire entre les tâches ménagères et les études et autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Et l'un des conseils que je donne généralement, c'est de parler avec les enfants. J'espère que vous comprenez les voisins. Il faut absolument parler avec votre enfant, parler dans le sens de lui vendre les tâches ménagères, de l'amener à comprendre pourquoi il doit le faire. Par exemple, vous pouvez organiser ce que moi j'appelle souvent une réunion familiale pour expliquer aux enfants pourquoi il faut qu'ils s'impliquent, à quoi est-ce que ça va leur servir dans leur vie future. Lorsque vous expliquez ça aux enfants d'une façon plus ou moins solennelle, ils vont s'y mettre. Dites-leur, par exemple, que ça les rend autonomes, ils ne seront plus dépendants d'autres personnes. Je pense à ce proverbe africain qui dit que si tu élèves ton enfant comme un roi, il deviendra un esclave. Et si tu l'élèves comme un esclave, il deviendra un roi. Pour dire que, quelquefois, ce n'est pas mauvais d'apprendre un peu la difficulté aux enfants aussi. Parce que la vie, ce ne sera pas toujours un tapis rouge. Autre chose, c'est qu'il faut le responsabiliser. Et pour ça, il faut donner aux enfants à faire des tâches minimes. Des tâches qui sont à leur niveau. Maintenant, effectivement, Emmanuel, il y a un problème qui s'oppose entre les tâches qu'on donne à la jeune fille et les tâches qu'on donne aux jeunes garçons. Chez nous, en Afrique, on a tendance à donner à la jeune fille des tâches qui vont l'amener vers les choses de la cuisine, l'entretien de la maison. Et puis, on va donner aux garçons des tâches qui vont se rapprocher des tâches d'hommes, par exemple, nettoyer la cour, défricher les mauvaises herbes, des choses de ce genre. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la société moderne impose que chacun sache faire plus ou moins un peu de tout. C'est pour ça qu'il faut tenir compte juste de la force physique de l'enfant, mais il faut vraiment lui donner à faire.
Que dire pour les parents qui pensent que ce n'est pas nécessaire de demander de l'aide à son enfant à la maison, que finalement, il y a du personnel de maison pour s'occuper de ça et qu'il faut laisser les enfants vivre leur enfance uniquement?
Oui, Emmanuel, je dirais que c'est une décision personnelle. Parce que dans tous les cas, chacune des décisions qu'on prend dans ce sens aura des répercussions plus tard. Oui, je l'ai dit au début, on n'a vraiment pas besoin des enfants pour nous mettre la propriété à la maison. Mais lorsque vous pensez que vous êtes en train d'apprendre à votre enfant à savoir faire quelque chose qui va l'aider plus tard, vous allez vous mettre. Oui, c'est une décision personnelle. On peut prendre du personnel de maison. C'est vrai qu'en Afrique, de moins en moins, on le fait. Peut-être à cause du coût de la vie, mais de façon naturelle, on implique les enfants. Mais il y a certains parents qui pensent que la scolarité de leur enfant vaut beaucoup mieux qu'apprendre à faire le ménage, je dis n'importe quoi, et ils payent du personnel de maison pour ça. Mais l'idée de base, c'est qu'il faut que vos enfants sachent faire quelque chose de leurs mains. Et je vous assure, lorsque l'enfant réussit à le faire, il est lui-même pas mal fier. Avec beaucoup de fierté, il vous montre comment il a nettoyé la maison, c'est bien fait, il est vraiment fier de lui. Ne le privez pas de cette joie qu'il a à avoir rendu service.
Merci beaucoup Micheline Samé, conseillère parentale à Douala, au Cameroun. On peut retrouver toutes vos chroniques sur le podcast Parents, Enfants d'ici et d'ailleurs. À très bientôt Micheline.
À très bientôt Emmanuel.
Et demain, 8 milliards de voisins sur RFI, reportage auprès de jeunes filles en France de 15 à 20 ans. On parlera de cette troisième vague féministe, 5 ans après MeToo et la libération de la parole des femmes. Ces jeunes filles racontent comment elles vivent au quotidien de vraies injustices par rapport aux garçons, les violences sexuelles bien sûr, le harcèlement de rue, leur manque de liberté aussi bien dans l'espace public que pour choisir un métier. Et elles expriment leurs attentes pour une véritable égalité. Ne manquez pas l'émission demain, bien sûr, à 11h10, heure de Paris, 10h10, temps universel. Et merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Berthoud, Romain Dubrac. Et puis, vous pouvez aussi télécharger toutes nos émissions lorsque vous les avez manquées pour les réécouter aussi tout simplement à l'horaire qui vous convient. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI, bien sûr.
Huit milliards de voisins, c'est fini.